Troisième partie. mauvaisconcert.com 1. Cora Babineau s'éponge la nuque avec une serviette à ses initiales et fronce les sourcils en regardant l'écran de surveillance de la salle de sport du sous-sol. Elle n'a fait que 6 km sur 10 sur le tapis de course. Elle déteste être interrompue. Et le tordu est de retour. Ding-dong fait la sonnette. Cora tend l'oreille, mais elle n'entend rien. Aucun bruit de pas de son mari à l'étage. Sur l'écran, le vieux en parka miteuse reste planté. Il ressemble à un de ces vagabonds qu'on voit au feu rouge, tenant des pancartes du style « J'ai faim, sans emploi, vétéran, SVP, aidez-moi ». « Bon sang !» grommelle-t-elle en arrêtant le tapis de course. Elle monte les escaliers, ouvre la porte donnant sur le couloir du fond et crie « Félix, c'est ton copain le tordu, ton hal !» Pas de réponse. Il est encore enfermé dans son bureau, probablement plongé dans cette espèce de jeu dont il semble s'être amouraché. Les premières fois où elle avait mentionné la nouvelle obsession étrange de Félix à ses amis du country club, c'était en plaisantant. Ce n'est plus très drôle à présent. Il a 63 ans. Trop vieux pour jouer à des jeux vidéo d'enfant. Trop jeune pour perdre la mémoire à ce point. Et elle commence à se demander s'il ne serait pas en train de présenter des signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer. Il lui a aussi traversé l'esprit que le copain tordu de Félix est une espèce de dealer. Mais n'est-il pas affreusement vieux pour ça? Et si son mari veut de la drogue, il peut certainement se fournir lui-même. Selon lui, la moitié des médecins de Kinner sont shootés, au moins la moitié du temps. « Ding-dong !» fait la sonnette. « Oh, la barbe !» dit-elle. Et elle se rend elle-même à la porte, un peu plus irritée à chacune de ses longues enjambées. C'est une femme grande et émaciée, dont les formes féminines ont été réduites comme peau de chagrin par l'exercice. Son bronzage de terrain de golf tient même au plus profond de l'hiver, prenant juste une nuance jaune pâle qui lui donne l'air de souffrir d'une maladie chronique du foie. Elle ouvre la porte. La nuit de janvier s'engouffre à l'intérieur, glaçant son visage et ses bras couverts de sueur. « Je crois que j'aimerais bien savoir qui vous êtes, » dit-elle, « et ce que vous et mon mari trafiquez ensemble. Serait-ce trop demandé ?»« Pas du tout, Madame Babineau, » dit-il. « Des fois je suis Al, des fois je suis Z-Boy. Ce soir je suis Brady. Et punaise, ce que c'est bon d'être dehors, même par un froid pareil. » Elle baisse les yeux sur sa main. « Qu'y a-t-il dans cette bouteille ?»« La fin de tous vos problèmes, » répond l'homme à la parka rapiécée. Il y a une détonation étouffée. Le fond de la bouteille de soda vole en éclats, accompagné de brins roussis de laine d'acier. Il flotte dans l'air comme des duvets de laitron. Cora sent quelque chose la frapper juste en dessous de son sein gauche ratatiné et pense: ce déséquilibré de fils de pute vient de me donner un coup de poing. Elle essaie de prendre une inspiration, mais n'y parvient pas. Son torse semble étrangement mort. De la chaleur s'accumule au-dessus de l'élastique de son pantalon de jogging. Elle baisse les yeux, essayant toujours de prendre cette inspiration vitale, et voit une tache s'élargir sur le nylon bleu. Elle lève un regard incrédule vers le type sur le seuil. Il tend les vestiges de la bouteille comme s'il s'agissait d'un présent, un petit cadeau pour se faire pardonner d'arriver à l'improviste à 8 heures du soir. Ce qui reste de la laine d'acier sort de la bouteille telle une fleur calcinée d'une boutonnière. Elle réussit enfin à prendre une inspiration qui est surtout liquide. Elle tousse et du sang jaillit de sa bouche. L'homme en parka entre chez elle et claque la porte derrière lui. Il lâche la bouteille, puis il pousse Cora. Elle chancelle, renverse un vase décoratif sur la petite console près du porte-manteau et tombe. Le vase se fracasse comme une bombe sur le parquet. Cora va chercher une autre de ses inspirations liquides. « Je suis en train de me noyer, » pense-t-elle, « de me noyer, là, dans l'entrée de ma maison, et tousse un peu plus de sang. »«
Cora !»
appelle Babineau depuis les profondeurs de la maison. Il a la voix de quelqu'un qui vient de se réveiller.
« Cora, ça va ?»
Brady lève le pied de Biblial et pose soigneusement la lourde chaussure de travail noire sur les tendons saillants du cou maigrelé de Cora Babineau. Un peu plus de sang gicle de sa bouche. Ses joues boucanées par le soleil en sont maintenant éclaboussées. Il appuie fort. Quelque chose craque en elle. Ses yeux enflent, enflent, puis deviennent vitreux.
« Coriace, la bonne femme !»
remarque Brady, presque affectueusement. Une porte s'ouvre. Des pieds chaussés de pantoufles accourent. Et la seconde d'après, Babineau est là. Il porte un peignoir sur un pyjama en soie ridicule façon Hugh Hefner. Ses cheveux d'argent, d'ordinaire sa fierté, sont sauvagement ébouriffés. Sa barbe a bien plus de 3 jours maintenant. À la main, il a un zapit vert d'où s'échappe la petite mélodie du Fishing Hole. À la mer, près de la magnifique mer. Il regarde fixement sa femme allongée sur le sol de l'entrée.
« Plus d'exercice pour elle !»
dit Brady du même ton affectueux.
« Qu'avez-vous fait ?»
hurle Babineau, comme si ça n'était pas évident. Il se précipite vers Cora et veut s'agenouiller à côté d'elle, mais Brady le crochette sous l'aisselle et le relève. Biblial n'a rien d'un Charles Atlas, mais il est nettement plus fort que le corps décharné de la chambre de 117.
« Pas de temps à perdre !» dit Brady. « La fille Robinson est vivante !» Ce qui nécessite un changement de plan.
Babineau le fixe du regard, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées qui lui échappent. Son esprit, jadis si affûté, a été émoussé. Et c'est la faute de cet homme.
Regardez les poissons, dit Brady. Vous regardez vos poissons, et moi je regarde les miens. On se sentira mieux tous les deux.
Non,
réplique Babineau. Il a envie de regarder les poissons. Il a toujours envie de les regarder, mais il a peur de le faire. Brady veut lui déverser son esprit dans la tête, comme une espèce d'eau étrange. Et à chaque fois que cela se produit, Babineau perd un peu plus de son être essentiel.
« Si, dit Brady, ce soir, vous devez être Dr. Z. »«
Je refuse !»«
Vous n'êtes pas en position de refuser. Tout se barre en couille. La police sera bientôt à votre porte. »
« Hodges, ce qui serait encore pire. Il ne vous récitera pas vos droits, lui. Il se contentera de vous assommer avec son casse-tête maison.
Parce que c'est un vil connard, et parce que vous aviez raison. Il sait. »«
Je ne veux pas. Je ne peux pas. »
Babineau regarde sa femme. Oh mon Dieu, ses yeux exorbités.
« La police ne voudra jamais croire. Je suis un médecin respectable. Nous sommes mariés depuis 35 ans. »
Hodges le croira. Et quand Hodges prend le mort aux dents, il se transforme en un putain de Wyatt Earp.
Il montrera votre photo à la fille Robinson. Elle la regardera et dira « Oh mais oui, c'est l'homme qui m'a donné le zapit au centre commercial. » Et si vous lui avez donné un zapit, vous en avez probablement donné un à Janice Ellerton aussi. Oups ! Et n'oublions pas Scapelli. »
Babineau le fixe, incrédule, tâchant de mesurer l'ampleur du désastre.
Et puis, il y a les médicaments que vous m'avez filés. Peut-être que Hodges est déjà au courant, parce qu'il n'hésite pas à user de corruption. Et la plupart des infirmiers du bocal savent. C'est un secret de polichinelle. Vous n'avez jamais cherché à le cacher.
Brady secoue tristement la tête de Biblial.
Votre arrogance.
Des vitamines.
C'est tout ce que Babineau parvient à dire.
Même la police ne le croira pas s'il réquisitionne vos dossiers et fouille dans vos ordinateurs.
Brady jette un coup d'œil au corps sans vie de Cora.
« Et il y a votre femme, bien sûr. Comment allez-vous expliquer ça ?»«
Je regrette que vous ne soyez pas mort avant d'arriver à l'hôpital, »
dit Babineau. Sa voix monte dans les aigus, se muant en plainte.
« Ou sur la table d'opération ! Vous êtes un Frankenstein !»«
Ne confondez pas le monstre avec son créateur, »
dit Brady, bien qu'il n'accorde pas réellement de crédit à Babineau sur le plan de la création. Le traitement expérimental du Dr. B a peut-être quelque chose à voir avec ses nouvelles aptitudes, mais rien, ou pas grand-chose, avec son rétablissement. Brady est persuadé que c'est venu de lui. Un acte de pure volonté.
En attendant, on a une visite à faire, et on ne veut pas être en retard.
À la femme homme ?
Il y a un mot pour ça. Babineau le connaissait avant, mais ça ne lui revient plus. Comme le nom de cette personne, ou ce qu'il a mangé pour le dîner. À chaque fois que Brady entre dans sa tête, il en emporte un peu plus avec lui en partant. La mémoire de Babineau, ses connaissances, son être.
C'est ça, la femme-homme. Ou, pour donner à ses préférences sexuelles son nom scientifique, Brutus Minus.
Non. La plainte est devenue un murmure. Je vais rester ici.
Brady lève son revolver. Le canon désormais visible dans le silencieux de Fortune explosé.
Si vous pensez que j'ai vraiment besoin de vous, vous faites la plus grosse erreur de votre vie.
Et la dernière. Babino ne dit rien. C'est un cauchemar. Il va bientôt se réveiller.
Obéissez, ou demain, la femme de ménage vous trouvera mort à côté de votre femme. Deux malheureuses victimes d'un cambriolage. J'aimerais mieux terminer ce que j'ai à faire dans la peau de Dr. Z. Votre corps a 10 ans de moins que celui de Brooks, et il est pas mal conservé. Mais s'il faut vous tuer, je le ferai. Et puis, ce ne serait pas gentil de ma part de vous laisser affronter Kermit Hodges. C'est vraiment un sale type, Félix. Vous n'avez pas idée.
Babino regarde le vieux bonhomme en parka à pistolet et voit Hartsfield dans les yeux bleus larmoyants de Biblial. Les lèvres de Babino tremblent, humides de salive. Il a les yeux bordés de larmes.
Brady trouve qu'avec ses cheveux blancs hérissés comme ça, le Babi ressemble à Albert Einstein sur la photo où le célèbre physicien tire la langue.
« Comment je me suis mis là-dedans »
gémit-il.
« Comme tout le monde, » dit Brady gentiment, « un pas après l'autre. »«
Pourquoi a-t-il fallu que vous vous en preniez à la fille ?»
éclate Babino.
« C'était une erreur de ma part, »
dit Brady. Plus facile à admettre que la vérité tout entière. Il ne pouvait pas attendre. Il voulait que la sœur du nègre tondeur de pelouse dégage la première.
« Maintenant, arrêtez de me faire chier et regardez les poissons. Vous savez que vous en avez envie. »
Et il en a envie. C'est ça le pire. En dépit de tout ce que Babino sait, il en a envie. Il regarde les poissons. Il écoute la mélodie. Quelques minutes plus tard, il se rend dans sa chambre pour se changer et prendre de l'argent dans le coffre-fort. Il fait un dernier arrêt avant de partir. L'armoire à pharmacie de la salle de bain est bien approvisionnée du côté de madame comme du sien. Il prend la BMW de Babino, laissant la vieille Malibu où elle est pour le moment. Il laisse aussi Biblial, qui s'est endormi sur le canapé.